Bienvenue dans votre capsule de révision pour le baccalauréat. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des arts plastiques pour maîtriser une question en lien avec le programme 2025 à 2026. Ce cours a été conçu par Madame Arzalier, enseignante au lycée Jean Monnet de Montpellier.
Quel est le rapport d'un artiste à la réalité ? L'art, est-ce que ça doit être un miroir fidèle du monde, ou plutôt une lentille qui le déforme, le réinvente ? Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre les choix des artistes, de cette quête de l'imitation parfaite jusqu'à l'abstraction la plus totale. Et pour poser le décor, je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une anecdote, une légende de la Grèce antique. C'est une histoire de rivalité, une compétition entre deux peintres, Zeuxis et Parrhésius. Zeuxis, le premier, dévoile son œuvre. Une grappe de raisin. Mais peinte avec un tel réalisme que des oiseaux descendent du ciel pour essayer de la picorer. Zeuxis, lui, certain d'avoir gagné, il se tourne vers Parrhésius et lui dit, un peu avec arrogance, « Tire le rideau pour qu'on voie ta peinture. » Et là, Parrhésius répond très calmement, « Le rideau, c'est la peinture. »
Ah, cette histoire est absolument fondatrice. Zeuxis, lui, il a réussi à tromper la nature. Les animaux, ce qui est déjà un exploit technique incroyable. Hein. Mais Parrhésius l'a trompé l'œil humain, et pas n'importe lequel.
L'œil d'un autre artiste.
Hein. D'un expert.
Exactement.
Et c'est là toute la nuance. Cette anecdote, elle illustre parfaitement le concept qui a été au cœur de l'art occidental pendant des siècles, la mimésis. C'est un mot grec, ça veut dire imitation. Le but ultime, c'était ça. Créer une illusion si parfaite que l'art se confonde avec la réalité.
C'est une ambition complètement folle quand on y pense. L'idée, c'est presque d'effacer l'artiste. Le chef-d'œuvre ultime, ce serait celui où on ne sent plus la main du peintre.
Oui, où on a l'impression de...
D'ouvrir une fenêtre sur le monde, quoi.
C'est ça, mais... Et c'est là que ça devient intéressant. Même la copie la plus exacte, la plus fidèle, eh ben ça reste une interprétation. La copie parfaite, en réalité, c'est un mythe.
Ah, voilà. Parce que même si l'artiste ne veut pas interpréter, il est obligé de faire des choix, non ?
Toujours.
Rien que choisir son sujet, c'est déjà un acte subjectif. Après, il y a l'angle, la lumière à un instant T, le cadrage. Tout ça, c'est déjà une forme de narration, une prise de parole.
L'écart entre le modèle et sa représentation, même s'il est infime, il est inévitable. Et surtout, il est significatif. C'est dans cet écart que réside en fait le début de l'art en tant que langage. Et c'est là que notre document fait une distinction très utile entre deux notions qui peuvent paraître proches, la ressemblance et la vraisemblance.
D'accord, alors, déballons ça. La ressemblance, j'imagine, c'est l'idée la plus évidente. On colle au modèle, on crée un lien visuel direct. Ça, c'est un portrait de telle personne et on la reconnaît.
C'est tout à fait ça. La ressemblance, elle cherche à produire un double reconnaissable du réel. L'artiste veut reproduire ce qui est observable. Et les sources citent un exemple magnifique, les études anatomiques de Léonard de Vinci. Quand il dessine des muscles, des tendons, des os, il ne fait pas qu'imiter l'apparence d'un corps, il le dissèque. Il cherche à comprendre son fonctionnement interne pour le représenter avec une fidélité quasi scientifique.
Ah oui, c'est l'art au service de la connaissance.
Exactement.
On est dans une démarche presque documentaire, en fait. L'art comme outil d'investigation du réel.
Oui, et on retrouve cette même intention, mais dans un autre contexte, avec un tableau comme « Labourage nivernais » de Rosa Bonheur, en 1849. C'est une toile immense d'un réalisme saisissant. On sent la puissance des bœufs, on sent le poids de la terre. La ressemblance, ici, elle sert à un projet social. Politique même, témoigner de la réalité du monde rural.
D'accord, donc la ressemblance, c'est capturer le réel tel qu'il est, ou tel qu'on le voit. Mais alors, la vraisemblance, c'est quoi la différence ? On reste dans l'idée de faire vrai, j'imagine ?
Oui, mais le jeu est beaucoup plus subtil. La vraisemblance, elle, ne cherche pas forcément à copier un modèle qui existe. Elle cherche à créer une fiction. Une fiction qui soit cohérente et plausible. L'artiste construit un monde qui pourrait exister. L'œuvre n'a pas besoin d'être un reflet fidèle de la réalité, mais elle doit nous convaincre de sa propre réalité.
Donc si je comprends bien, l'artiste change de statut. Il passe de témoin à...
Créateur de monde. C'est une excellente façon de le dire.
Il n'est plus un copiste, c'est un démiurge. Il peut mentir, en fait, du moment que son mensonge est crédible.
C'est exactement ça. Et l'exemple qui est donné dans nos sources est parfait pour illustrer ça. C'est la photographie 99 cents d'Andreas Gursky. Au premier regard, qu'est-ce qu'on voit ?
Un supermarché.
Un hypermarché, immense, qui s'étend à perte de vue, avec une profusion de produits, de couleurs, de lignes. L'image a tout l'air d'une photo de documentaire prise sur le vif.
Sauf que ce n'est pas le cas du tout. C'est un montage, c'est ça ?
Un montage numérique, il a combiné plusieurs photos, il a dupliqué des rayons, il a réorganisé tout le chaos pour créer une symétrie parfaite. Voilà. L'image n'est pas réelle au sens journalistique. Aucun supermarché n'est exactement comme ça. Mais elle est parfaitement vraisemblable. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mensonge numérique, il produit une image qui semble plus vraie sur la société de consommation que la réalité elle-même.
C'est une hyper-réalité.
Oui. Cette saturation, cette uniformisation, cette abondance écrasante. Gursky crée une hyper-réalité qui révèle une vérité profonde sur notre monde.
C'est un paradoxe puissant, ça. Une fiction qui nous en dit plus sur le réel qu'un documentaire. Ça me fait penser à un autre artiste mentionné, Johann Fontcuberta, qui lui pousse le jeu encore plus loin. Il en fait presque un piège pour le spectateur.
Absolument. Fontcuberta, lui, il crée de toutes pièces des reportages sur des animaux fantastiques. Il y a tout, les photos, les squelettes, les schémas scientifiques, les notes de terrain.
Il imite tous les codes du documentaire scientifique.
Oui, pour nous faire croire à l'existence de l'hydropithèque.
Il utilise la vraisemblance comme une arme pour questionner notre crédibilité. Il nous dit en plus, regardez comme il est facile de vous manipuler avec des images qui ont l'air vraies.
Et à l'ère des fake news et des images générées par IA, son travail est d'une pertinence redoutable. Donc, on a d'un côté les artistes qui essayent d'imiter le réel, et de l'autre ceux qui créent des fictions crédibles. Mais qu'est-ce qui se passe quand les artistes décident de ne faire ni l'un ni l'autre, quand ils arrêtent de courir après le réel et choisissent délibérément de s'en éloigner, de créer ce que nos sources appellent l'écart. Alors là, on entre au cœur de la révolution de l'art moderne. Cet écart, cette distance volontaire par rapport au réel, ça devient le moteur principal de la création. Et il y a un événement technologique qui va tout faire basculer, qui va servir de détonateur.
La photographie.
L'invention de la photographie, dont l'annonce officielle date de 1839.
On imagine le choc, toute la finalité de l'art de l'époque, cette compétition pour peindre le raisin le plus réaliste, ça devient soudainement...
obsolète.
Obsolète, oui.
C'est une crise existentielle pour la peinture. La question posée très crûment par le peintre Paul de la Roche à l'époque, c'était « à partir d'aujourd'hui, la peinture est morte ». Si une machine peut capturer le réel avec une précision mécanique, quel est le nouveau rôle du peintre ?
Et cette question, au final, ça a été une libération.
Exactement. Au lieu de tuer la peinture, la photographie l'a forcée à se redéfinir.
Elle l'a forcée à trouver ce qu'elle seule pouvait faire, ce que la machine ne pouvait pas capturer. Et j'imagine que la première réponse, c'est les émotions, le monde intérieur.
C'est ça. L'écart n'est plus vu comme un échec de la ressemblance. Il devient un outil d'expression. Le premier levier pour ça, c'est la déformation. Prenez le cri d'Edvard Munch de 1893. Le paysage n'est pas réaliste. Le ciel est rouge sang, les lignes du fjord sont ondulantes, tordues.
Le personnage lui-même est à peine humain.
Voilà, Munch, il ne peint pas un coucher de soleil sur Oslo. Il peint une crise d'angoisse. Il peint ce qu'on ressent quand une panique existentielle déforme le monde entier autour de soi. La vérité n'est plus optique. Elle est psychologique.
Et c'est la même logique, mais poussée encore plus loin, chez Picasso avec La femme qui pleure. Parce que là, le visage est plus que déformé, il est brisé.
Éclaté en morceaux.
On voit le profil et la face en même temps, c'est une vision impossible dans la réalité.
C'est le principe même du cubisme. Picasso ne cherche pas à représenter son modèle, Dora Maar, tel qu'elle apparaît, mais à montrer la totalité de sa souffrance. Le document nous rappelle que ce tableau est peint en 1937, en pleine guerre d'Espagne, juste après le bombardement de Guernica.
Ah oui, le contexte est essentiel.
Cette femme qui pleure, ce n'est pas juste une personne, c'est le symbole d'une douleur qui fracture le monde. En montrant le visage sous tous ses angles à la fois, comme s'il était fait de morceaux de verre brisés, Picasso nous fait ressentir la violence de cette peine de l'intérieur. Il peint la douleur elle-même, pas seulement ses symptômes.
Mais dans ces deux exemples, chez Munch comme chez Picasso, il reste un sujet reconnaissable. Un personnage, un paysage, un visage. J'ai l'impression que l'étape la plus radicale, la rupture ultime, ce serait de dire que même ce sujet n'est plus nécessaire.
Vous mettez le doigt sur la dernière frontière, l'abstraction. C'est l'écart poussé à son paroxysme, jusqu'à ce que le lien avec le modèle se dissolve complètement. Et l'artiste qui incarne ce basculement, c'est Vassili Kanditsky. Les sources mentionnent une de ses œuvres de 1913, « Paysage à l'église ». Au début, si on plisse un peu les yeux, on peut encore deviner la silhouette d'un clocher, quelques formes.
On essaye de s'accrocher à quelque chose.
Oui, mais très vite, on se rend compte que ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, ce sont ces taches de couleur pure, vibrantes, ces lignes noires énergiques qui dansent sur la toile.
L'art devient comme la musique. Ce sont les harmonies, les rythmes, les mélodies qui créent l'émotion. Kandinsky voulait faire la même chose avec les couleurs et les formes.
C'est l'analogie parfaite. Et c'est celle que Kandinsky utilisait lui-même. Il parlait de composition, de résonance intérieure des couleurs. L'art n'a plus besoin d'un prétexte dans le monde extérieur pour exister. Il devient un monde en soi, autonome.
Avec son propre langage, la peinture, c'est une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Une rupture totale avec la tradition de Zuxis. Quel parcours incroyable! On est parti d'une compétition pour peindre le rideau le plus réaliste possible, et on arrive à des toiles où il n'y a plus rien de reconnaissable, juste de l'émotion pure traduite en couleurs et en formes.
Et ce que ce parcours nous montre, c'est que la représentation n'est jamais neutre. C'est toujours une prise de position. Un artiste peut utiliser son rapport au réel pour documenter, témoigner, créer une illusion, mais aussi pour interroger notre perception, critiquer la société ou explorer sa propre subjectivité. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque avancée technologique qui a semblé menacer l'art, de l'appareil photo à l'ordinateur,
ça ne l'a jamais tué.
Au contraire, ça le force à se poser une question plus profonde. Si la machine peut montrer le quoi, quelle est la seule chose que l'humain peut encore exprimer?
Le pourquoi et le comment on le ressent. Et cette réflexion nous amène directement à notre époque. La photographie de notre temps, la nouvelle technologie qui rebat les cartes, c'est l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, une machine peut créer en quelques secondes une image photoréaliste, une œuvre dans le style de Picasso ou une composition abstraite à la Kandinsky à partir d'une simple phrase.
La question se pose donc avec une acuité nouvelle. Quand la mimésis, la déformation expressive et même l'abstraction peuvent être automatisées, simulées à la perfection.
Exactement. Quelle est la nouvelle mission de l'artiste? Où se situe le nouvel écart créatif? Est-ce que c'est dans l'idée de départ, dans le prompt qu'on donne à la machine? Est-ce que c'est dans la sélection, la curation des images générées? Ou est-ce que, de la même manière que la photo a poussé les peintres vers l'émotion et l'abstraction, l'IA va pousser les artistes vers des territoires qu'on n'imagine même pas encore? C'est une pensée vertigineuse à garder à l'esprit.
Vous avez maintenant en main les concepts clés pour maîtriser cette question en lien avec le programme 2025 à 2026. Bonne révision et à très bientôt pour une nouvelle capsule.